acteur de changement. Il est tourné vers l'innovation. Il ne se contente jamais de peu. Il pousse l'information dans les moindres détails. Guillaume Lavoie.
Bonjour, bienvenue à Cube Radio. Heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on se lance directement dans l'analyse presque du côté là, de l'actualité judiciaire. Écoutez, un crime absolument crapuleux, à peu près de ça un an. Un groupe d'individus ont frappé et empoisonné un jeune homme. Et par la suite, au moins un d'entre eux a conspiré pour cacher le corps et essayer d'en disposer dans quelque chose qui relevait presque de Breaking Bad. Mais justement, pour aller au fond de ça, puisqu'on vient d'apprendre un peu plus sur le jugement et la condamnation, Michael Nguyen, qui est journaliste au Journal de Montréal. Bonjour.
Bonjour, Guillaume.
Merci beaucoup d'être là, Michael. Alors, peux-tu nous rappeler les faits? Et je veux avertir les gens, là, on est dans l'ordre d'un niveau de violence et de cruauté assez rare dans les annales judiciaires.
Oui, en effet, c'est un meurtre qui est survenu en septembre 2021 dans l'arrondissement Lachine. Comme vous le dites, c'est un meurtre absolument crapuleux. C'est Jimmy Meto, un homme de 27 ans, qui s'est rendu dans un appartement de Lachine. Et ça a pris une tournure telle qu'on en voit rarement, en fait. Donc, il y a eu une dispute, il a été tué, mais pas juste tué, en fait. C'est dès le début, il a été battu, laissé à lui-même pendant plus d'une heure, tabassé, poignardé dans le dos, forcé d'ingérer des produits toxiques. Puis lui, pendant ce temps, il essayait de s'échapper, puis il n'y arrivait pas, puis il criait « je veux pas crever comme ça ». Malheureusement, ben, c'est ce qui est arrivé. Et encore là, c'est pas terminé parce que une fois qu'il était mort, il a été enroulé dans des draps, tiré dans le garage, dans le sous-sol de l'immeuble et finalement jeté dans un baril et abandonné comme ça.
Et je pense, Michael, corrige-moi, il y a même entre le moment du meurtre et le moment de l'emballage puis d'essayer de disposer du corps, ils ont pris une pause là, comme si c'était bon ben là, on a travaillé un peu, on va prendre une pause, on y reviendra plus tard.
Oui, vraiment. Ce que je dis, résumé des faits, c'est qu'il a vraiment été abandonné pendant plus d'une heure. Donc, imaginez, vous êtes blessé, vous criez à l'aide et on vous ignore, on vous laisse mourir sur le plancher, littéralement. C'est quelque chose de terrible. Et justement, ben, les proches de la victime qui étaient là, ben, ils n'arrivent toujours pas à passer au travers de cette mort aussi atroce.
Et là, la condamnation, c'était dans le fond le procès final. Quelle a été la peine imposée?
C'est une peine très sévère. En fait, il faut dire que le maximum pour un adolescent, c'est 10 ans de garde. Ben, lui, il a écopé de 9 ans de garde, donc quasiment le maximum. Et ce, même si il a été en liberté pendant les procédures judiciaires, qu'il a respecté toutes ses conditions, il allait à l'école, il avait des bonnes notes à l'école. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est sur le chemin de la réhabilitation. On le voit quand la mère de la victime a témoigné, quand le beau-père de la victime a témoigné. Il était quasiment en larmes. On voyait qu'il commençait vraiment à réaliser ce qui se passait. Parce qu'il s'est fait dire, c'est t'as pas, la mère lui a dit, t'as pas juste brisé ta vie, t'as brisé notre vie, celle de tous les proches, tous les amis, Jimmy Meto, parce que c'est peut-être une victime pour la justice, mais c'était aussi un frère, c'était aussi un fils, un cousin, un neveu, un ami. Donc vraiment une audience haute en émotion et vraiment triste.
Mais un niveau de violence et de cruauté à ce point, est-ce que l'accusé, maintenant le condamné, était, et là je cherche pas de faux fuyant, mais j'essaie de m'expliquer, est-ce qu'il était sous l'effet de drogue? Comment on peut expliquer qu'après avoir commis un crime d'une violence telle, avec une cruauté telle, on puisse être sur le chemin de la réhabilitation et comprendre ce que l'on a fait? Est-ce qu'il y a quelque chose de fondamental qui s'est passé entre le moment des faits et maintenant?
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'était pas seul, l'accusé. Il y avait plusieurs autres personnes qui ont été arrêtées et dont les procédures judiciaires continuent à suivre leur cours, des personnes adultes. Donc, je fais attention dans ce que je dis parce qu'il y a des ordonnances de non-publication afin justement de protéger ces personnes-là d'un procès juste et équitable. Mais on ne peut pas mettre toute la participation, on ne peut pas mettre le rôle de cet adolescent comme étant la tête dirigeante de cette opération-là, en fait. Donc, on peut comprendre qu'il a été entraîné là-dedans. Oui, on ne peut pas dire qu'il était juste là, il a regardé. Il a eu une réelle participation Et c'est pour ça, justement, qu'il a été accusé de meurtre au premier degré et d'outrage à un cadavre et qu'il a décidé de plaider coupable.
Et là, il y a vraiment meurtre au premier degré. C'est pas juste complicité ou homicide involontaire ou d'avoir été au mauvais endroit au mauvais moment. Il y a une participation active. Tu as dit quelque chose, Michael, de fort, je dirais, pertinent. Parce que, à la fin, c'est toujours où passe la ligne en droit, là. Il n'était pas un adulte, on va le dire comme ça, et d'autres participants étaient adultes. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce que ça change aux yeux de la justice lorsque on commet un crime et on est âgé de moins de 18 ans, là?
Ce que les juges disent souvent, c'est que un adolescent, un mineur, sa responsabilité est toujours un petit peu moindre parce que justement, c'est pas un adulte, son cerveau est pas complètement développé comme une personne de 25 ans, 26 ans, 30 ans, 40 ans. Et il y a toujours moyen d'avoir une meilleure réhabilitation. C'est pour ça aussi qu'on parle pas de prison, on parle pas de pénitencier pour les mineurs, on parle plus de garde. Donc, ça peut être des gardes fermées, gardes ouvertes, souvent qui sont en centre jeunesse. Quand une personne, par contre, écope d'une peine assez longue, par exemple ici, une garde de 9 ans...
Mais ça, il y a un bout, est-ce qu'il va être encore ado? Mais à un moment donné, il va être adulte pendant la durée de sa peine. Comment ça marche?
Et comment ça marche, en fait, c'est que à partir de 20 ans, de façon générale, ben là, il les envoie chez les adultes. Parce qu'on peut imaginer, ce serait bizarre d'avoir, par exemple, lui, il en a jusqu'à 26, 27 ans de garde. À 27 ans, dans un centre jeunesse avec des adolescents de 14, 15 ans, c'est sûr qu'il détonne, il n'a peut-être pas sa place là. Donc, il va probablement être envoyé dans un pénitencier éventuellement. Et là, ben, c'est sûr que c'est différent des centres de jeunesse. Et il va devoir côtoyer des criminels endurcis. Mais en même temps, il aura accès à des programmes de réhabilitation. Et comme la juge le disait, c'est à lui maintenant de prendre cette balle au bon, puis justement travailler pour devenir une bonne personne, pour devenir un actif pour la société. Parce que on ne veut pas jeter la clé puis l'oublier. On veut quand même donner une chance aux gens pour la rédemption.
Michael, j'ai l'impression que ce serait pertinent qu'on se reparle parce que tu disais que c'est que le premier des malfrats qui, lui, vient d'avoir la finalité de son processus judiciaire. D'autres co-conspirateurs, d'autres co-meurtriers, on pourrait presque le dire comme ça, qui, eux, seront jugés aux adultes. Ça va être intéressant de voir quelles peines vont être appliquées à ce moment-là et à quelle vitesse est-ce qu'on va procéder parce que la famille de la victime a pas fini encore de subir presque, je dirais, la détresse psychologique, la violence psychologique de l'ensemble du processus judiciaire qui ne fait que commencer dans son cas. Michael Nguyen, journaliste au Journal de Montréal, merci beaucoup de nous avoir expliqué ça.
Merci beaucoup, Guillaume.
Au plaisir. Bye.